Sur l'émission Une heure en Palestine, qui est comme tous les mercredis, a lieu tous les mercredis de 18h à 19h. Voilà, donc aujourd'hui l'émission sera animée par des membres de deux associations, Marseille-Gaza-Palestine, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, et Palestine 13, qui est une branche locale de l'association France-Palestine-Solidarité, que vous pouvez retrouver sur son site, sur son Facebook, ou vous pouvez lui écrire sur asso.palestine13@gmail.com. Voilà.
On commence tout de suite par l'actualité marseillaise autour de la Palestine, avec ce soir au Polygone étoilé. Ça commence à partir de 19h, 19h15, donc vous avez le temps d'y aller à la fin de l'émission. La projection d'un film Beautiful Resistance, peindre c'est résister, avec un buffet et une participation aux frais pour soutenir la tournée du dessinateur palestinien Mohamed El Sabaneh, qui sera présent au Polygone étoilé. Et puis, dans les jours qui viennent, ce samedi, la projection du film One More Jump d'Emanuele Girosa, un film italien de 83 minutes, qui aura lieu à 16h à la bibliothèque de l'Alcazar, dans la salle qui est au rez-de-chaussée. Et enfin, pour le mois d'octobre, 14 octobre à partir de 13h45 avec un début impérativement à 16h, à 14h, pardon, une conférence internationale qui se tiendra au Mistral, un impasse Flammarion, avec deux tables rondes sur le thème « 30 ans après Oslo, où en sommes-nous ?» avec deux témoins de l'époque, deux témoins qui étaient en Palestine, Mariam Aboudaka de la bande de Gaza, qui viendra de Gaza, et Fayez Odeh, paysan de Tulkarem, que nous avions déjà reçu. Et nous aurons aussi des analystes qui sont Gilles Devers, avocat, qui représente la Palestine auprès de la Cour pénale internationale, un des avocats, Nada Awad, une juriste palestinienne, et Assia Zeino, une marseillo-italienne, chercheuse et écrivaine, qui est, elle, spécialisée sur les prisonniers, les prisonnières en particulier, alors que Nada Awad, elle, va plutôt nous parler de tout ce qui se passe sur Jérusalem au cours de ces 30 dernières années. Et enfin, les 19 et 20 octobre, au Mussen Lab, un colloque à ne pas manquer, la Palestine et le monde. Et pour cela, vous allez vous taper la Palestine et le monde au Mussen Lab et vous vous inscrivez pour pouvoir participer à ce colloque fort intéressant.
Voilà, donc aujourd'hui, le corps de notre émission, le focus, va être sur la rentrée scolaire et universitaire. Donc, en cette période de rentrée scolaire et universitaire, pourquoi nous souhaitons mettre un focus sur l'éducation en Palestine ? Pour toutes les difficultés que rencontrent tous les élèves et étudiants, quel que soit leur lieu de résidence, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, et également les Palestiniens de 48. Alors, tout d'abord, il est vraiment important de rappeler que l'éducation est un enjeu fondamental pour tous les Palestiniens. Un des piliers de la résistance, une clé de l'indépendance. Plus de 95% des enfants sont inscrits dans l'éducation de base à travers la Palestine. Le taux d'analphabétisme en Palestine n'est que de 2,2% chez les plus de 15 ans. C'est évidemment l'un des plus bas de la région. Et ce taux d'alphabétisme dure depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui, depuis des années et des années, reste une préoccupation vraiment importante pour les Palestiniens. Alors, un souvenir personnel pour illustrer l'importance de la scolarisation pour les familles. Je me trouvais à Ran Younes, dans la bande de Gaza, chez un responsable du PCHR, qui est en gros l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme chez nous. toute la nuit, les Israéliens avaient bombardé la partie frontalière de Rafah. Rafah qui est donc tout à fait au sud, à la frontière avec l'Égypte. Au matin, nous sommes allés constater les dégâts et rencontrer les familles. 29 maisons avaient été détruites. La zone était un vrai champ de ruines. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver vers la fin de la matinée des enfants qui revenaient de l'école. Leurs parents avaient tenu, malgré une nuit épouvantable et sans sommeil, à les y envoyer.
Bien qu'impressionnantes, les statistiques obscurcissent les tribulations et les barrières que les jeunes Palestiniens rencontrent dans leur parcours éducatif. 25% des garçons abandonnent l'école avant l'âge de 15 ans. Tout aussi préoccupant, c'est que 22,5% des garçons et 30% des filles, âgées de 6 à 15 ans, avec un handicap, ne sont jamais inscrits à l'école.
Les faibles taux d'achèvement des études sont intrinsèquement liés au marché du travail défaillant de la Palestine. L'économie est paralysée par des décennies de sanctions et d'isolationnisme. Actuellement, le taux de chômage des jeunes est de 40% en Cisjordanie et de 62% à Gaza. Simplement, de nombreux jeunes Palestiniens ne voient pas l'intérêt de terminer leurs études si cela ne leur garantit pas des opportunités d'emploi. Et comment un enfant peut-il s'émanciper quand il lui faut passer par des checkpoints pour aller à l'école, subir des fouilles, des arrestations, trembler pour l'ensemble de sa famille, se retrouver dans des classes surchargées? Comment un étudiant peut-il être dans les meilleures conditions quand le simple fait d'aller à l'université chaque jour ressemble à un parcours du combattant? Comment les enseignants et chercheurs palestiniens peuvent-ils assurer leur mission dans un pays occupé? Mais malgré les entraves et les violences quotidiennes de l'occupant israélien, l'éducation reste pour les Palestiniens une priorité absolue. L'éducation, en particulier l'éducation populaire, est une composante essentielle de la résistance palestinienne à la domination coloniale, un lieu d'émancipation contre la volonté sioniste de nier l'histoire, la culture, l'identité palestinienne.
Les Palestiniens ont très vite compris l'efficacité de cette clé de l'indépendance que représente l'apprentissage scolaire et son développement au collège et à l'université. Une véritable lutte, le droit à l'éducation étant constamment contesté par l'occupant, souvent de façon brutale ou sournoise. C'est ce que nous allons illustrer par quelques exemples dans l'éducation de base et universitaire. Pour des milliers d'étudiants et d'élèves, la semaine du 21 août marquait la rentrée des classes en Palestine. Malheureusement, cette année encore, les jeunes Palestiniens la vivent sous le signe de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. En effet, à Hébron, un groupe d'enfants a été enfermé par des soldats israéliens à l'intérieur du checkpoint à l'entrée de la vieille ville et des écoliers se sont vus confisquer leurs cartables par les forces d'occupation. Le lendemain, l'autorité académique a été obligée de suspendre et de fermer les classes en raison de nombreux raids de l'armée israélienne dans la région. Ces agressions s'ajoutent aux pressions et aux violences dont sont victimes les enfants et adolescents palestiniens de la part des colons, notamment lors de leur trajet vers les lieux d'études.
Alors, une des armes terribles de l'occupant israélien est la destruction d'écoles. On se souvient, durant les guerres dans la bande de Gaza, des bombardements d'écoles, y compris celles gérées par l'UNRWA, qui est donc l'équivalent du commissariat pour les réfugiés ailleurs dans le monde. Donc même des écoles gérées par cet organisme, où s'étaient réfugiées des familles entières, ont été bombardées, alors qu'elles sont parfaitement identifiées, y compris par voie aérienne. Mais ne croyons pas que ces exactions n'arrivent qu'en période de guerre aiguë. À chaque rentrée scolaire, des enfants sont privés de leur école et doivent interrompre leurs études ou faire des kilomètres pour les poursuivre. Ainsi, les forces israéliennes ont détruit le 7 mai 2023, donc juste avant l'été, une école primaire d'un village du sud de la Cisjordanie occupée, à Jabet Ad-Dim, dans la région de Bethléem. École dont la déconstruction avait été jugée illégale et dangereuse par une décision de justice israélienne. L'école, qui accueille 45 enfants, avait déjà été détruite en 2019, puis reconstruite. Cette démolition ordonnée par la cour du district de Jérusalem a été dénoncée par la partie palestinienne, mais aussi par la représentation de l'Union européenne auprès des Palestiniens qui avaient financé la structure et qui a exhorté Israël à respecter le droit des enfants à l'éducation. Mais une ONG sioniste de droite a estimé que cette construction entrait dans le cadre d'une politique palestinienne visant à construire une structure sur une terre vierge proclamée qu'il s'agit d'une école, puis faire de sa démolition une affaire humanitaire. Tiens, une terre vierge, cela nous rappelle ce qu'on entendait 70 ans plus tôt au moment de la Nakba, ce leitmotiv répété inlassablement qu'Israël était arrivé sur une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Ce leitmotiv est toujours vivant aujourd'hui.
Autre exemple, l'école Kirbet Umkusa, située à Masafer Yatta, dans les collines du sud d'Hébron, en Palestine occupée. L'école Kirbet Al-Kusa est visée par un ordre de démolition émis par l'administration civile israélienne, qui en fait est composée de militaires, le 18 juin 2023. Le motif invoqué par cette administration civile, à savoir l'absence de permis de construire pour la construction de cette école, pose d'importantes questions au regard du déni des droits du peuple palestinien à Masafer Yatta. En effet, les permis de construire y sont systématiquement refusés aux Palestiniens. Il s'agit par ailleurs de la troisième école détruite en moins d'un an, après l'école de Jebel Tep, dans le district de Bethléem, démolie au bulldozer le 7 mai 2023, et l'école Assafai, à Masafer Yatta, elle aussi, rasée le 23 novembre 2022. Cinq autres écoles de Masafer Yatta sont également menacées de démolition, ainsi que plusieurs autres écoles dans la vallée du Jourdain. Masafer Yatta devient un symbole de l'épuration ethnique israélienne, car ses 1300 habitants sont menacés d'expulsion dans l'unique but de transformer la zone et leur village en zone de tir pour entraîner l'armée israélienne. Un large mouvement de soutien se déploie de la part de mouvements palestiniens, mais aussi à l'international.
Alors, encore un souvenir de notre dernier voyage en Palestine en octobre dernier. Un chef de village du campement de Bédouin d'El Hadidiya en zone C de Cisjordanie nous expliquait qu'ils avaient interdiction de construire une école ou un centre de santé. Les enfants de ce campement de Bédouins devaient aller dans le village palestinien d'Eil Beda à 27 km pour aller à l'école. Ils partent propres du camp, nous dit-il, parcourent le chemin de terre. Il faut savoir que tout goudronnage ou empierrage est interdit par les Israéliens. Donc ils empruntent ce chemin de terre en tracteur. Et quand ils arrivent sur la route goudronnée où passe le bus, ils sont complètement sales de poussière ou de boue et ils se font moquer par les enfants. Sur ces 24 enfants et petits-enfants, un seul a été jusqu'au bac, nous dit-il. Les Italiens avaient empiré le chemin, mais les Israéliens ont tout enlevé immédiatement. La 4e Convention de Genève prévoit que la santé, l'éducation sont de la responsabilité de la force occupante. Mais ce n'est pas appliqué du tout, nous dit-il. Il s'agit d'un véritable déni de droit à l'éducation, infligé aux Palestiniens et utilisé comme un levier de pression pour les contraindre à quitter leurs terres. Un autre moyen utilisé par le gouvernement israélien pour nier la culture et les valeurs palestiniennes, c'est de chercher à imposer les programmes scolaires israéliens. Ainsi, ce 4 septembre 2023, donc tout récemment, les forces d'occupation israéliennes stationnées aux portes de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est ont arrêté des dizaines d'étudiants palestiniens qui se rendaient à leur école. Ils ont fouillé leurs cartables, confisqué des manuels scolaires palestiniens, affirmant que ces livres contenaient de l'incitation et avaient le drapeau palestinien imprimé dessus. Et jeudi dernier, ces forces d'occupation ont saisi plusieurs manuels scolaires palestiniens dans un véhicule qui les livrait à une école privée de la vieille ville. Ils ont arrêté le chauffeur et l'un des employés de l'école, dans le cadre des efforts israéliens pour imposer le programme israélien dans les écoles palestiniennes.
Et à l'université. Les universités palestiniennes, elles, sont un peu le fleuron de cette bataille pour l'indépendance. Avec 13 institutions réparties sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, elles dispensent un enseignement de haute qualité, malgré les limites imposées par l'occupation et son cortège d'exactions. Leur création et leur mise en place, dès les années 70, ont donné lieu à de rudes affrontements face à l'acharnement de l'occupant opposé au développement intellectuel des Palestiniens. La coopération entre universités européennes et palestiniennes s'est manifestée d'abord via l'octroi de bourses, permettant aux étudiants palestiniens de parfaire leur formation au niveau master et doctorat. Elle s'est exprimée à travers le programme PEACE de l'UNESCO, point de rencontre entre une douzaine d'universités européennes et leurs homologues palestiniennes. D'autres programmes de coopération existent qui ont débouché sur la constitution d'une génération de jeunes enseignants-chercheurs prêts à en découdre pour démontrer leur capacité à doter leurs universités d'une reconnaissance internationale.
Alors, avant de poursuivre sur l'université et de prendre des exemples précis, nous allons faire une première pause et nous allons vous passer une musique qui a été créée en début d'année, en 2023, par des jeunes et par des Palestiniens en hommage à l'année d'un an après la mort de Shirin Abu Akleh, cette journaliste américano-palestinienne qui a été tuée lors d'une attaque dans le camp de Jénine en 2022. Voilà, donc on vous passe cette musique créée vraiment exprès pour honorer la mémoire de Shirin Abu Akleh.
Thank you.
Oui, très fort, très émouvant. Et on revient donc dans le cadre de cette émission plus particulièrement consacrée à la rentrée scolaire. Alors, vous êtes bien sur Radio Galère, une heure en Palestine. Et Radio Galère, donc, c'est 88.4. C'est aussi un Facebook, Radio Galère Musique, et un Instagram, Radio Galère. Voilà. Donc, on revient sur les universités avec quelques exemples, et en particulier, on commence par l'université An-Najah de Naplouse. Il s'agit d'une école à l'origine, en 1918, qui est devenue institut de formation à l'enseignement en 1965, puis An-Najah est transformée en université nationale en 1977, avec deux universités, sciences et arts. Elle s'étend maintenant sur quatre campus. L'ancien concerne les humanités. Le nouveau campus concerne les sciences, facultés et centres de recherche avec la faculté de médecine et sciences de la santé, médecine, pharmacie, optométrie, soins de santé, laboratoire d'analyse médicale, la faculté d'agriculture et de sciences vétérinaires, la faculté de sciences de l'ingénieur et de l'information, physique, chimie, biotechnologie et mathématiques. Elle comprend également un collège de technologie, le collège technique Hicham Hijaoui. À Kadouri se trouve la faculté d'agriculture. Un hôpital très avancé a été créé en 2013. L'université dispose aussi d'un centre multimédia, d'un canal de radiodiffusion et d'une chaîne de télévision. Le département de physique a été, pour sa part, créé en 1980 avec un soutien très important de l'université Paris-Sud, Orsay, du CERN, du LAL et de Sésame. Alors, je ne pourrais pas développer les sigles.
Les instituts de recherche en physique.
D'accord. Il comporte maintenant 6 professeurs, 12 assistants ou professeurs associés, tous palestiniens d'origine, dont 3 docteurs formés en France. Les autres ont reçu leur formation aux États-Unis, en Europe, en particulier en Italie, et en Turquie. Ils enseignent à 200 étudiants en licence, 20 en master et 40 en thèse, avec une majorité de femmes.
Voilà, donc on voit à travers cet exemple de Naplouse comment, entre 1977 et 2023, cette université a pris un essor absolument remarquable. Alors nous allons aussi parler d'une des universités d'Hébron, puisqu'il y a plusieurs universités, où nous avons été reçus en octobre dernier. Cette université privée date de 1971, comporte plus de 100 programmes, dont 20 licences, 20 masters, 2 doctorats. 13 facultés, dont la toute récente faculté de médecine. Alors, le français y est enseigné depuis 20 ans, mais la plupart du temps, c'est une matière complémentaire à d'autres études et les étudiants le choisissent comme développement personnel, plus que pour un avenir précis en français. Et ce qui nous a étonnés, c'est que l'université compte 75% de filles. Mais en fait, ce n'est pas tellement étonnant parce que nous avons vu dans la première partie que les jeunes hommes ont vraiment besoin assez rapidement de gagner leur vie pour souvent aider les familles et donc ne poursuivent pas au même niveau que les filles, puisqu'il paraît que ce pourcentage de 75% se retrouve dans beaucoup d'universités en Palestine. Alors cette vitalité qu'on vient de décrire un peu par Naplouse et Hébron se retrouve dans tous les pôles universitaires. Et pourtant, être étudiant n'est pas un long fleuve tranquille. Dans une interview, des étudiants expliquent que la répression israélienne contre les étudiants est motivée par de réelles raisons politiques. L'opposition sait que les étudiants dans le secteur le plus actif et le plus dynamique sont le secteur le plus actif et le plus dynamique de la société, en particulier à une époque où les partis politiques sont de moins en moins efficaces, dit un des étudiants. Dans la mesure où l'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah du président Mahmoud Abbas, n'a pas organisé de scrutin présidentiel depuis 2005, les élections des conseils d'étudiants servent depuis longtemps de baromètre de la politique palestinienne au sens large, en particulier parmi les jeunes. Mais si les factions politiques étudiantes en Palestine sont historiquement des extensions des partis politiques, un des étudiants de l'université de Birzeit pense que les temps ont changé. Et il dit « Aujourd'hui, Les partis politiques sont en réalité une extension du mouvement étudiant. Nous, les jeunes des universités, dotés d'une conscience politique, sommes ceux qui dirigent la rue, affirme-t-il. C'est pourquoi l'occupation nous vise particulièrement.
Oui, l'armée israélienne prive des activistes palestiniens de leurs études universitaires, et en particulier les étudiantes, engagées dans des activités syndicales sur leur campus qui font régulièrement l'objet de décisions de suspension arbitraire, ce qui perturbe leurs études et freine leur carrière. Cette politique israélienne n'est pas nouvelle. En 2018 et 2019, l'armée israélienne a pris des décisions similaires en suspendant plusieurs étudiants palestiniens en Cisjordanie occupée pour plusieurs mois, ce qui a entravé l'achèvement de leurs études et les a empêchés de recevoir leur diplôme en même temps que leurs camarades. En effet, en emprisonnant, en interdisant d'accès à l'université des étudiants, quoi de mieux que de bloquer leurs études. En effet, en vertu des lois régissant l'état d'urgence prolongé, les articles 108, 109 et 110 donnent au gouvernement militaire israélien le pouvoir de prendre certaines mesures à l'encontre de tout individu, telles que une expulsion, interdiction d'accéder à certains lieux ou obligation de se présenter deux ou trois fois par mois au commissariat de police pour y être interrogé, mais aussi de déterminer son lieu de résidence ou alors de l'expulser de son lieu de résidence. La politique visant à exclure les étudiants de leur université a pour but d'affaiblir le mouvement étudiant en le vidant de certains de ses leaders et de ses membres chargés d'influencer le milieu universitaire. D'autres formes de répression s'exercent: blocage des routes d'accès, problèmes au checkpoint, qui peuvent être fermés ou ouverts en fonction des soldats, de la bonne humeur du soldat qui y sont, arrestations au sein même des universités et placement en détention administrative, difficultés d'accès aux cours pour ceux qui sont en prison, difficultés pour obtenir des visas pour étudier à l'étranger et poursuivre les études pour des diplômes plus élevés.
Alors, je crois qu'on a plusieurs fois parlé ici à la radio du cas emblématique de Salah Hamouri, qui a poursuivi, avait commencé ses études de droit et a poursuivi ses études de droit alors qu'il était en prison et a pu donc, dès sa sortie, devenir avocat. Et pour les difficultés de visa, nous avons aussi connu plusieurs étudiants palestiniens à qui que des universités françaises avaient accepté d'accueillir pour faire des spécialisations. Et le consulat de France à Jérusalem leur donnait le visa, mais ils n'arrivaient pas à sortir de Palestine pendant un mois, deux mois, trois mois. Et plusieurs sont arrivés à la fin du premier trimestre des études universitaires, étant parfois condamnés à recommencer une deuxième année universitaire pour avoir manqué tout le début des études.
Alors, avant de faire une pause musicale intermédiaire, avant la conclusion, je voulais juste annoncer quand même l'arrivée récemment d'une jeune postdoctorante qui va être pendant quelques temps à Marseille. Elle vient de l'université d'Hébron et elle va rester quelques temps parmi nous, je ne dirais pas où, pour des raisons de sécurité que tout le monde comprendra.
Ah ouais, nous allons conclure ce focus sur l'éducation, en particulier scolaire et universitaire en Palestine, en disant qu'effectivement, beaucoup reste à faire pour améliorer l'accès à l'éducation en Palestine, même si c'est déjà d'un très haut niveau, parce que partout en Palestine, les salles de classe restent immensément surpeuplées et sous-financées, y compris les écoles qui dépendent directement de l'UNRWA, donc les écoles qui sont où sont les enfants de réfugiés, puisque vous savez que l'UNRWA ne fonctionne qu'avec les dons, enfin les subventions données par les différents États, et que les États ne se pressent pas pour abonder le fonds et que d'année en année l'argent manque. Et du coup, il n'y a pas de développement de classes, les classes sont surpeuplées, il n'y a pas assez de recrutement. Donc même ces écoles-là sont impactées. Manque de salles de classe, évidemment, pénurie de manuels scolaires. Les étudiants palestiniens sont obligés de battre tous les pronostics et vraiment de se surpasser. Parfois, les étudiants doivent étudier sans lumière en raison de pannes de courant fréquentes, comme par exemple à Gaza. Mais comme on l'a vu, le potentiel intellectuel est bien là. Et nul doute qu'en période de paix, sans colonisation ni apartheid, l'éducation en Palestine sera vraiment du même niveau que dans tous nos pays européens. Voilà, nous allons faire une deuxième pause musicale autour de la chanson qu'on vous a déjà passée sur le mur de Dominique Grange, chanteuse française.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela. Comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Et vous êtes encore avec une heure en Palestine. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble sur Radio Galère 88.4. Et nous allons maintenant aborder un autre sujet tout à fait d'actualité. Vous savez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dans sa quête éperdue de rester au pouvoir pour éviter la casse-prison, avec son nouveau gouvernement composant de nombreux ministres fascistes et colons et fascistes, tente à tout prix de juguler, d'annihiler les pouvoirs de la Cour suprême. Et cela provoque au sein de la société israélienne, et quand je précise société israélienne, je précise essentiellement juive, de très 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 nombreuses manifestations qui... tout au début, était totalement concentré sur la vie au sein de la société palestinienne et négligeait totalement les 20% de Palestiniens citoyens israéliens restés qu'ils n'ont pas pu chasser en 1948. Et petit à petit, les choses semblent évoluer. C'est de cela dont on va parler maintenant.
Alors, on va reprendre presque pratiquement intégralement un article paru dans Mediapart hier du journaliste René Bachmann, parce qu'il nous semble intéressant justement dans ce tournant, alors qui est peut-être timide, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas qui est intéressant à connaître de la société israélienne, en tout cas d'une bonne partie. Alors que la Cour suprême s'apprête à statuer sur des amendements hostiles à la réforme autoritaire voulue par le gouvernement, la situation de Netanyahou est de plus en plus intenable. Des officiers et directeurs des services de sécurité dénoncent les racistes fascistes aujourd'hui au pouvoir. À quelques heures de l'examen par la Cour suprême de ces amendements contre le premier volet de la réforme judiciaire qui donnerait au Premier ministre israélien des pouvoirs démesurés, sans contrôle, les obstacles s'accumulent sur la route du régime illibéral rêvé par Benjamin Netanyahou et ses alliés. En fait, Israël peut se retrouver dans quelques jours, voire quelques semaines, confronté à une crise constitutionnelle historique. Et les membres de sa fonction publique placés devant un choix crucial inédit. Devront-ils obéir à une loi rejetée par la majorité de la population, qui amorcerait le changement de nature du régime, ou à la Cour suprême si elle proclame la nullité du texte du gouvernement ? La révolte de la société civile, qui a fait descendre dans la rue des milliers d'opposants, pratiquement un Israélien sur deux, hostile à une évolution inspirée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou le président turc Erdogan, ne faiblit pas après 8 mois de mobilisation. Rappelons que c'est tous les samedis qu'ont lieu ces manifestations. Mais Netanyahou et ses alliés, ainsi que vient de les définir l'ancien directeur du Mossad, Tamir Pardo, ne semblent plus en mesure de contenir l'extension et l'évolution récente du mouvement populaire contre la réforme. Car les organisateurs des manifestations ne se limitent plus désormais à dénoncer les périls qui menacent la démocratie israélienne, démocratie entre guillemets. Les guillemets sont mis par ce journaliste René Bachmann, donc qui menace la démocratie israélienne telle qu'elle a fonctionné depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Ils continuent, certes, à proclamer leur attachement aux valeurs démocratiques, mais ils s'interrogent aussi et interrogent leurs compatriotes sur le caractère réellement démocratique d'un État qui occupe et colonise depuis un demi-siècle la terre d'un autre peuple, et qui a décidé de sa propre volonté de devenir un État d'apartheid. Peut-on servir un tel État ? C'est la question qu'il se pose et pose aujourd'hui.
L'exemple vient de haut, en effet, du cœur même du système institutionnel israélien. Au début du mois, c'est Gali Barav Miara, procureur général de l'État d'Israël, qui a annoncé au Premier ministre qu'elle soutenait les appels, pétitions, demandant l'invalidation de cette loi sur la réforme de la justice, dont le premier volet décisif a été adopté en troisième lecture par la Knesset en juillet. Alors que les pétitions doivent être examinées à partir du mardi 12 septembre, c'est-à-dire hier, par les 15 juges de la Cour suprême qui siégeront exceptionnellement ensemble pour la première fois dans l'histoire d'Israël, Galibar Avmira, que le ministre Likoud de la coopération régionale David Amsalem dénonçait il y a quelques semaines comme la personne la plus dangereuse d'Israël, estime que cette loi priverait le public d'un moyen crucial de se défendre contre l'exercice arbitraire du pouvoir et porterait un coup fatal au fondement du système démocratique. C'est pourquoi, conclut-elle, il n'y a pas d'autre choix que de déclarer la nullité de ce projet de loi. Situation assez baroque compte tenu de la position hostile adoptée par la procureure générale. C'est un avocat privé qui défendra devant la Cour suprême le texte du gouvernement. Autre donnée déroutante de cette crise, dont personne n'entrevoit à ce jour l'issue, la position radicalement hostile au pouvoir adoptée début août dans sa tribune du Yediot Aharonot par Tamir Pardo, directeur du Mossad entre 2011 et 2016, surtout connu pour avoir défini en juin 2018 le Mossad comme une organisation criminelle avec une licence, c'est-à-dire avec une autorisation d'être criminelle. Pardo, qui avait été nommé à la tête des services de renseignement israéliens par Netanyahou, n'a jamais caché depuis qu'il a quitté la direction du Mossad les réserves que lui inspirait le caractère irrationnel, pour ne pas dire aventuriste, du Premier ministre. On sait aujourd'hui qu'en 2011, il avait contesté, avec le soutien du chef d'état-major de l'époque, Benny Gantz. Rappelez-vous, Benny Gantz, celui qui s'était vanté d'avoir ramené Gaza à l'âge de pierre. Eh bien, ce même Benny Gantz avait contesté la décision prise par Netanyahou de lancer une frappe contre l'Iran. Frappe qu'il jugeait illégale, car elle n'avait obtenu l'aval ni du gouvernement, ni du cabinet de sécurité. Le Premier ministre avait, dans un premier temps, menacé de démissionner avant de renoncer à son projet. Après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, Pardo, inquiet, avait mobilisé plusieurs de ses prédécesseurs en conseillant au président américain de retirer son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. La semaine dernière, enfin, il a publié avec l'aval des commandants pour la sécurité d'Israël, le CIS, commandant pour la sécurité d'Israël, organisme qui rassemble plus de 540 officiers supérieurs et directeurs des services de sécurité, une tribune dans laquelle il affirme que chaque jour rapproche un peu plus Israël de la fin du rêve sioniste.
Les messianiques et les fascistes, estiment-ils, ont lié un bloc ultra-orthodoxe, ultranationaliste et anti-sioniste à Netanyahou et ont transformé son parti de droite démocratique en une formation raciste, ultra-orthodoxe, autoritaire. Les racistes fascistes aujourd'hui au pouvoir aspirent impatiemment au déclenchement d'un conflit apocalyptique, au terme duquel les Juifs auront vaincu tous les autres, les auront chassés, tués s'ils résistent, ou les auront contraints de vivre en permanence avec un statut inférieur, a-t-il ajouté. Alors, comme s'il redoutait de n'avoir pas été entendu, l'espion à la retraite, donc ce fameux Pardo, a enfoncé le clou un mois plus tard dans une interview à Associated Press. « Il y a un état d'apartheid ici », a-t-il insisté. Rappelons-nous qu'en France, quand on parlait d'apartheid il y a encore quelques mois, on déclenchait des tonnerres de réprobation. « Il y a un état d'apartheid ici », a-t-il insisté. « La question des Palestiniens », a ajouté Pardo, est l'une des plus pressantes aujourd'hui pour Israël, plus pressante que le programme nucléaire iranien. Quand je dirigeais le Mossad, j'ai répété à Netanyahou qu'il devait décider où étaient les limites d'Israël. Car un pays qui n'a pas de limites n'a pas de frontières. Et si l'État des Juifs n'a pas de frontières, il risque la destruction. Oui, on rappelle que Israël est le seul pays au monde à ne pas avoir de frontières définies et reconnues internationalement. Cruelle, vertigineuse et crédible, car fondée sur des réalités indiscutables, la perspective dessinée par Tamir Pardo est d'autant plus accablante pour Netanyahou et sa coalition qu'il est difficile d'accuser son auteur d'islamo-gauchisme ou d'antisémitisme, et qu'elle recoupe l'analyse avancée par les quelques 2300 signataires universitaires, intellectuels, artistes, rabbins, israéliens ou amis d'Israël, dans la pétition qu'ils viennent d'adresser aux membres et aux responsables des organisations de la communauté juive des États-Unis. Sous le titre « L'éléphant dans la pièce », les auteurs du texte constatent qu'il existe un lien direct en Israël entre les attaques récentes contre la justice et l'occupation illégale de millions de Palestiniens, qui sont privés de tout, de presque tout, les droits fondamentaux, y compris ceux de voter et de protester, et qui affrontent une violence constante. Cette seule année, les forces israéliennes ont tué près de 190 Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, démoli près de 590 constructions. Les colons brûlent, pillent et tuent en totale impunité. Sans droits égaux pour tous, que ce soit dans un État, dans deux ou dans n'importe quel autre cadre politique, il y a un danger de dictature, écrivent encore les signataires. Manifestement guidés par la même analyse de la situation et résolus à ouvrir les yeux de leurs compatriotes sur la présence « dans la pièce » entre guillemets d'un éléphant nommé « occupation », les dirigeants de la révolte populaire n'ont pas hésité il y a quelques semaines à organiser pour la première fois des manifestations même au cœur des territoires occupés.
L'une près du domicile du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ancien délinquant, chef du parti ultranationaliste raciste puissance juive, dans la colonie de Kiryat Arba, au-dessus de Hébron. L'autre dans la colonie de Kedumnim, près de Naplouse, autour du domicile du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux. Militant ardent du suprémacisme juif, Smotrich, qui se présente volontiers comme un fasciste homophobe, a réclamé et obtenu de Netanyahou, en plus de son portefeuille des finances, un titre de ministre au ministère de la Défense, qui lui donne toute autorité sur la colonisation et sur la vie quotidienne des Palestiniens en Cisjordanie. À leur arrivée à Kiryat Arba, les manifestants ont été guidés par la police et la milice personnelle de Ben-Gvir vers le jardin Kahan, du nom de Feu, le fondateur du parti raciste Kar, lequel défendait le nettoyage ethnique de la Palestine, ce qui avait motivé son interdiction par la Cour suprême. Ils ont ainsi constaté que le jardin Kahan était voisin de la tombe gardée par la police de Baruch Goldstein, le colon qui, en 1994, massacra au fusil d'assaut 29 fidèles palestiniens en prière au tombeau des patriarches. Et j'ajoute que l'armée israélienne a achevé, après ce massacre dans la mosquée, a achevé de massacrer des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire plus d'une centaine de Palestiniens, qui dénonçaient et manifestaient pour dénoncer le crime commis par Baruch Goldstein dans la mosquée d'Hébron. Pour beaucoup de manifestants, ce fut une surprise, accompagnée de honte, de découvrir qu'on avait pu donner le nom de Kahan à un jardin et que la tombe de Goldstein était devenue un lieu de pèlerinage, constaté à Haaretz, dont la tribune consacrée à cette manifestation était titrée « Les centristes israéliens ont découvert le jardin Kahan, mieux vaut tard que jamais ». Quelle est donc la part de cette honte des centristes ou de la nouvelle lucidité des électeurs traditionnels de Bibi, enfin résolus à sortir leur tête du sable, comme l'espérait il y a quelques semaines Yael Lotan du mouvement de soldats Breaking the Silence? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui est déjà clair en revanche, c'est que la popularité de Netanyahou s'effondre, ce que se droguer au sondage, selon la formule d'un ancien collaborateur, ne peut ignorer. En effet, selon une enquête du quotidien Maariv révélée fin août, en cas d'élection, la coalition actuelle, droite, extrême droite, religieux, colons, n'obtiendrait pas la majorité, mais seulement 54 députés sur 120, ce qui est quand même énorme pour un groupe fasciste, contre 64 actuellement. Et les oppositions réuniraient 57 députés, contre 46 aujourd'hui, auxquels pourraient s'ajouter 11 élus palestiniens, dit arabe. Un autre sondage de la chaîne de télévision Channel 3 indique que 56% des Israéliens redoute une guerre interne, alors qu'un troisième montre qu'un tiers des Israéliens envisagent de quitter le pays. Ce que nombre d'investisseurs, apparemment, ont déjà fait. Un rapport du ministère des Finances révélé la semaine dernière que le montant des investissements étrangers a diminué de 60% par rapport à 2002, et cela...
2022.
À 2022, oui, je ne veux pas vieillir. Au premier trimestre de 2023.
Habitué dans les périodes de tension à évoquer son passé au sein d'une unité d'élite, ou encore d'évoquer la mort de son frère lors du raid d'Entebbe, Netanyahou risque désormais d'être déçu s'il attend un soutien de l'armée. Une armée que plus de 200 lycéens refuseront d'intégrer si la menace de dictature se précise et si l'occupation de la Cisjordanie se poursuit, ainsi qu'il l'annonce dans une lettre ouverte. Car les militaires en activité ou en réserve, qui ont depuis le début apporté un soutien spectaculaire au mouvement de la société civile, ont très mal pris les critiques de l'extrême droite qui les accusait à mots à peine couverts d'être des privilégiés. Et ils ont très mal pris aussi les rumeurs de révocation du chef d'état-major, Herzi Halevi, considéré comme trop tolérant face à l'indiscipline de ses troupes. Sans aller jusqu'à évoquer un coup d'État pour sauver la démocratie des colonels et des généraux, ne cache pas qu'ils ont lu ou relu récemment « The Democratic Coup d'État », le coup d'État démocratique, publié en 2017 par les presses universitaires d'Oxford. L'ouvrage contient une analyse détaillée du scénario de la révolution des œillets qui a mis fin pacifiquement à la dictature portugaise en 1974. D'autres, comme l'ex-général Amiran Levin, ancien chef du commandement nord de l'armée israélienne, relaient les accusations des opposants les plus radicaux à l'occupation, en estimant qu'il n'y a jamais eu de démocratie en Cisjordanie depuis 57 ans. Il y a un apartheid total. Forcée d'y exercer sa souveraineté, l'armée y pourrit de l'intérieur en restant les bras croisés et en regardant agir sans rien faire les colons émeutiers. Elle commence à être partenaire des crimes de guerre. Vétéran de la guerre de Kippour il y a un demi-siècle, au cours de laquelle, à 22 ans, aux commandes de son F-4 Phantom de l'escadron 201, il a abattu 2 appareils ennemis et perdu 7 de ses camarades, tandis que 14 étaient faits prisonniers, Gilles Regev estime aujourd'hui qu'en Israël, sans armée de l'air, il n'y a pas d'armée. Tout dépend des réservistes, qui sont des civils. On ne peut pas imposer aux gens, explique-t-il, des missions de combat. Une mission de combat est fondée sur le volontariat, sur un contrat non écrit, poursuivit-il, qui suppose que les volontaires n'aient pas à obéir à un État messianique corrompu, à des repris de justice inculpés comme il y en a dans ce gouvernement. Si le projet du gouvernement va à son terme, le pays deviendra une dictature. Je propose donc que le chef d'état-major de l'armée, le directeur du Mossad, celui du Shin Bet, aille voir le Premier ministre en somme, lui expliquer que son projet risque de provoquer la désintégration de l'armée et qu'il lui dise « ça suffit ». Cela réclame plus de courage que d'être sur le champ de bataille, beaucoup plus, mais ils entreront dans l'histoire. Donc voilà ce que ça nous a semblé intéressant de vous le communiquer, dans le sens où on voit que de plus en plus d'Israéliens font le lien entre les problèmes que rencontre Israël et la colonisation et l'apartheid de la Palestine.
Alors moi aussi, je trouve cet article particulièrement intéressant, effectivement, parce qu'il recense un petit peu tout ce qui se fait dans la société civile israélienne. Mais je voulais revenir aussi sur ce qui se fait, sur ce que dit l'armée, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, c'est 200, je crois qu'on a dépassé maintenant le chiffre de 200 Palestiniens, on est au mois de septembre, donc on a largement pulvérisé le record de l'année dernière, qui était déjà une des pires années, en dehors des périodes de guerre ouverte et des massacres organisés à Gaza, mais que c'est quand même, malgré toutes les exactions quotidiennes des colons, c'est quand même l'armée israélienne qui tue au quotidien des Palestiniens. Et récemment encore, dans le camp de El Arab au sud de Hébron, un gamin de 16 ans, c'est avant-hier, a été tué, un jeune petit rappeur, un réfugié, a été tué par l'armée israélienne. Donc cette armée qui aujourd'hui s'inquiète pour la démocratie israélienne, contribue, elle, à faire le jeu de ce qu'elle dénonce, et c'est quand même certaine hypocrisie, mais c'est un changement tout de même intéressant qu'on se doit de noter. Alors, avant de terminer, revenons donc sur les prochaines actualités auxquelles j'ajouterai un autre événement, puisque, alors, ce soir, au Polygone, dans un petit moment, vous pouvez courir. Et c'est Beautiful Résistance, peindre c'est résister. Et puis samedi, c'est à l'Alcazar, à la bibliothèque sur le cours Belzunce, à 16h. One More Jump, c'est l'histoire de jeunes Gazaouis qui font du saut, qui font des exercices de sport. Et il y en a un qui arrive à quitter, et c'est leur histoire, leur épopée. Le 14 octobre, c'est 30 ans après les accords d'Oslo. Où en sommes-nous avec Mariam Aboudaka qui vient de Gaza, Fayez Odé, qui vient de Tulkarem, Gilles Devers, avocat français qui représente les intérêts de la Palestine auprès de la Cour internationale, la Cour pénale internationale, Nada Awad, palestinienne et juriste, Asia Zaino, chercheuse et écrivaine. Le 19 et le 20 octobre, au Mussen Lab, un colloque à ne pas manquer, la Palestine et le monde, il faut s'y inscrire sur le site du Mussen. Et pour terminer, et en avant-première, je crois qu'après cet article, justement, il est important d'annoncer qu'au mois de décembre, le collectif Palestine en résistance et toutes les organisations qui le composent auront le plaisir d'accueillir deux anciens soldats de l'armée israélienne, membres de l'association Breaking the Silence, Briser le silence, qui viendront témoigner en France de ce qu'ils ont pu vivre, de toutes leurs activités au cours de leur période militaire, pour essayer de faire comprendre aux Français en général, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs opinions, ce que c'est que d'être soldat dans une armée d'occupation. Et nous invitons aujourd'hui le maire de Marseille, son directeur de cabinet, M. Edadi, chargé des associations, et tout le conseil municipal à venir y assister, et aussi à nous accorder une salle, car contrairement à ce qui a été fait pour la venue du président d'Amnesty International, à cette époque, on ne voulait pas parler d'apartheid au sein de la municipalité marseillaise. Aujourd'hui, quand l'ancien directeur du Mossad parle de l'apartheid, peut-être que cette voix va être entendue sur le Vieux-Port à la mairie de Marseille. Merci à vous tous.
Voilà, au revoir. C'est la fin d'une heure en Palestine. Rendez-vous mercredi prochain à 19h, à 18h, pardon. Shalabim.